Bonjour, je m'appelle Bruce Edwards et bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales indique que la croissance s'accélère grâce en partie à la hausse du cours des produits de base.
Enfin, la raison pour laquelle la croissance augmente, c'est parce que les pays exportateurs de pétrole se remettent peu à peu de ce choc avec le bénéfice des prix plus élevés du pétrole.
Papa Ndiaye dirige la division des études régionales au département Afrique du FMI et il dit « Tandis que la perspective macroéconomique pour l'Afrique subsaharienne continue à se renforcer, merci aux réformes en cours et la croissance mondiale plus forte, les taux de croissance ne répondent toujours pas aux besoins réels de la région. » Ndiaye a supervisé la rédaction de cette nouvelle perspective économique régionale.
Donc, la croissance est à la hausse. Mais est-ce que c'est assez pour générer le nombre d'emplois nécessaires pour la région?
Oui, merci. Nous prévoyons une croissance de à peu près 3,1% cette année, donc 2018, et une croissance d'à peu près 4% pour le moyen terme. Et ça se traduit comme une croissance de 1,5% quand on regarde le PIB par tête, la croissance par tête. Mm-hmm. Et c'est beaucoup trop faible pour générer suffisamment d'emplois pour absorber toute la nouvelle main-d'œuvre que la poussée démographique va générer. Quand on regarde les prévisions des Nations Unies sur la poussée démographique en Afrique, les chiffres montrent que l'Afrique subsaharienne va ajouter à peu près 20 millions de nouvelles personnes.
Ça, c'est important.
Voilà, par an, en moyenne, jusqu'en 2030-2035. Et quand on regarde les prévisions pour 2050, là, on se rend compte de la taille de cette poussée démographique. Donc, c'est à la fois un défi et aussi une grande opportunité pour la sous-région. Mais pour pouvoir créer tous ces emplois nécessaires, il faut que les pays de la sous-région fassent plus de progrès pour soutenir la croissance, pour créer une croissance dynamique et soutenue qui sera suffisamment élevée. Par nos estimations, il faudrait une croissance d'à peu près 6% en gros, en moyenne, dans la sous-région pour créer un nombre d'emplois un peu plus proche de ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, là, dans notre rapport, on montre qu'avec une croissance de 6%, la région pourrait créer à peu près entre 16 et 18 millions d'emplois par an. Et ce serait ce qui permettrait d'absorber plus de main-d'œuvre, cette nouvelle main-d'œuvre qui joint le marché du travail.
Alors, les prix des produits de base, quoique sporadiques, font signe de rebondir. Ça veut dire quoi pour les plus grandes économies de la région, comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria?
En fait, on prévoit une hausse des prix des produits énergétiques, par exemple, beaucoup plus élevée qu'avant. Et ça devrait aider les pays exportateurs de pétrole à croître un peu plus rapidement. Comme vous le savez, ces pays ont subi un grand choc en 2014 avec la chute très significative des cours du pétrole. Et donc, cette reprise qu'on voit dans les prix du pétrole à un niveau global, enfin, sont une bonne chose, vont aider les pays exportateurs de pétrole. Mais comme la région abrite aussi des pays importateurs de pétrole, ces prix plus élevés vont être un frein à la croissance. En moyenne, on espère toujours, pour la région en général, on prévoit une croissance quand même plus élevée cette année. Et l'une des raisons, enfin, la raison pour laquelle la croissance augmente, c'est parce que les pays exportateurs de pétrole se remettent peu à peu de ce choc et avec le bénéfice des prix plus élevés du pétrole.
Comment se fait-il que l'Afrique subsaharienne puisse arriver à un accord de libre-échange régional quand les conflits commerciaux deviennent de plus en plus intenses ailleurs dans le monde? Et que sera l'impact de ce nouvel accord?
Cet accord de libre-échange africain va certainement bénéficier les pays de la région dans le long terme. On est en train d'étudier les implications, enfin les bénéfices pour chaque pays, enfin les bénéfices économiques et les coûts de la transition, liés à la transition. Parce que ça va, comme tout accord de libre-échange, ça va certainement conduire dans le court terme à des mouvements de travailleurs d'un secteur à un autre. Ça va conduire à des mouvements des capitaux d'un secteur à un autre, d'un pays à un autre. Ça va avoir des implications budgétaires. Et donc tout ça requiert une analyse profonde qu'on prévoit de publier dans notre rapport de perspective économique régionale de 2019, en avril 2019.
Voilà.
Donc nous sommes très optimistes et confiants des bénéfices que cet apport pourrait apporter au pays. Mais cela nécessite aussi que les différentes barrières non tarifaires qui existent en ce moment soient levées ou réduites. En le sens où, par exemple, l'Afrique a besoin d'un montant assez élevé en termes d'infrastructures, hein, a besoin de pas mal d'infrastructures. Et donc, mettre en place cette infrastructure va faciliter et augmenter les bénéfices liés à cet accord de libre-échange. Alors, comme vous savez, c'est très difficile d'échanger des produits entre pays s'il n'y a pas de route ou s'il n'y a pas une infrastructure qui est là, présente. Donc, il faudra que ces facteurs-là aussi soient pris en compte dans la mise en œuvre de cet échange.
Je crois que personne ne mettra en question l'importance des objectifs de développement durable établis par l'ONU. Mais croyez-vous que ces pays vont pouvoir trouver l'argent nécessaire pour atteindre ces objectifs?
Les objectifs de développement durable sont très importants, comme vous le dites. Et quand on regarde le progrès qui a été fait ces dernières années par les pays de la sous-région, ce sont des progrès énormes, hein, et très, très importants du point de vue de l'augmentation du PIB par tête, quand on regarde le niveau d'atteinte en termes d'éducation, le taux de scolarisation primaire ou secondaire, par exemple. Il y a eu pas mal de progrès quand on regarde la baisse de la mortalité infantile et maternelle. Et juste le taux d'espérance de vie qui maintenant est à peu près à 60 ans. Donc ce sont des objectifs très importants. Mais comme le Fonds monétaire l'a montré récemment dans une étude faite au niveau du département fiscal, atteindre les objectifs en 2030 va nécessiter pas mal de dépenses, hein. Enfin, ça a un coût assez élevé. Et ce coût est estimé à peu près 14% du PIB en moyenne par pays. Bon, il y a une grande variation par pays, mais c'est un montant assez élevé quand on prend en compte certaines difficultés ou les vulnérabilités que certains pays ont dans leur économie. Donc, atteindre ces objectifs va certainement nécessiter des réformes significatives, importantes de la part des pays, non seulement des réformes du point de vue fiscal, c'est-à-dire pour mobiliser plus de recettes fiscales. Et là, on estime que les pays de la sous-région peuvent en moyenne mobiliser à peu près 5 % du PIB, 3 à 5 % du PIB. C'est une étude qu'on avait faite dans les perspectives régionales, économiques régionales d'avril 2018. Mais ça va aussi nécessiter des réformes structurelles pour augmenter la croissance et faciliter l'atteinte de ces objectifs. Donc, ça reste un défi qui nécessite la participation à la fois des acteurs locaux, enfin des pays de la sous-région et du secteur privé. Parce que même si on suppose que les États mobilisent 5 % du PIB en revenus supplémentaires, il restera un gap de 9 à 10% en moyenne à combler. Et ce qui veut dire une participation plus élevée du secteur privé, ainsi qu'une participation plus active de la communauté internationale du point de vue de l'aide au développement, mais aussi des investisseurs internationaux pour atteindre ces objectifs.
C'était Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales au département Afrique du FMI, qui commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com ou iTunes ou votre site préféré. Vous n'avez qu'à effectuer une recherche pour IMF Podcasts.